Bien le bonjour, frères et sœurs. Vous avez tous un visage bleu, comme le ciel. Et permettez-moi de vous poser une question avant de lire un texte dans le chapitre 1er de Marc. Est-ce que vous êtes déjà venu à Jésus depuis que vous êtes sur la terre? Qui est déjà venu à Jésus? D'accord. Qui croit en Jésus?
Alléluia!
Là, les frères, vous levez la main et vous ouvrez la bouche. Qui croit en Jésus?
Amen.
Alors, mes frères, mes sœurs, puisque vous êtes venus à Jésus et que vous croyez Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à celui qui vient à lui et à celui qui croit? Il a dit ceci, celui qui vient à moi et celui qui croit en moi, exact, n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Est-ce que c'est vrai? Bien. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur jusqu'en vie éternelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce matin, je peux dire, Seigneur, merci de ce que de mon cœur sort des fleuves d'eau vive? Ça, c'est important. Parce qu'il y a écrit qui ne sort de votre cœur, qui ne sort de votre bouche, qu'une méchante parole, mais Dieu veut qu'ils sortent de nous des fleuves d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive, le Seigneur l'explique. Il est écrit ceci dans Jean, chapitre 7. Jésus disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc les fleuves d'eau vive, c'est aussi une action du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit quand il est répandu sur nous? Zacharie le dit et l'affirme. Dieu dit, je répandrai mon esprit, un esprit de grâce, un esprit de supplication. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est venu à Jésus, qui croit en Jésus, qui est devenu un fleuve d'eau vive, qui jaillit. Et l'Écriture nous dit que cela se répand tout autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur ces fleuves d'eau. Connaissez ce chant qui dit « Il est un fleuve, il... d'où ? Il est comment ? De quoi ? Ce matin, qu'est-ce que je vais faire ? Et qu'est-ce qui se produit ? Et encore ? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais y boire, son amour me remplit. Et alors? Et ça m'anime. Vous savez, frères et sœurs, que Zacharie dit les fleuves, un esprit de grâce et de supplication. Mais quand on lit bien de la Genèse à l'Apocalypse, on entend dans la Bible, et on voit dans la Bible, beaucoup d'images de fleuves. Hein? Et nous avons sur les ailes de la foi, on ne va pas le chanter, mais je vous rappelle, sur les ailes de la foi, l'auteur, dans le Saint-Esprit, a composé ces paroles. De la croix, grâce coule comme un fleuve. Et mes frères et sœurs, si on partait du principe que les fleuves, ou le fleuve qui sort, c'est la grâce de Dieu. Car la source des fleuves, n'est-ce pas Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, je lui donnerai de l'eau vive. Si tu crois qui je suis, tu m'aurais demandé et il t'aurait donné. Jésus est donc la source de l'eau vive. Et cela va nous permettre maintenant de lire les trois action de la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Regardez bien. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Notez bien le mot d'abord. Il enseigna et ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis, stupéfaction. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de Galilée. Terminons par le verset suivant. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on en parla à Jésus, on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, il la fit lever, lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Et dernière lecture, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte, et nous pouvons dire, mes frères et sœurs, nous avons dans ce texte, excusez-moi qui a été long, nous avons les trois images de ce que fait la grâce de Dieu. Car n'oublions jamais que la grâce de Dieu, c'est la source du salut pour tous les hommes. Et la grâce de Dieu pour nous, c'est pas une théorie, une théologie, c'est avant tout une personne. Nous l'avons contemplé, et cette personne, elle s'appelle... Très bien, alors on y va. Tout est important dans ce texte, mais tout d'abord, regardez ce qui se passe quand ils sont sortis de la synagogue. Il est écrit, ils sont rentrés dans la maison de Simon et d'André. Mes frères et sœurs, jusqu'à maintenant, certainement qu'à Capernaum, la maison de Simon et d'André était une simple maison. Il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de sculpture. Près de la porte, si vous avez été en Israël, on vous le montrera, près de la porte, ils faisaient sécher leurs filets. Hein. C'était une humble maison, une petite maison. Et quand les visiteurs sont en Israël, dans cette région-là, on leur montre, on dit là, c'est une maison, c'était pouvait être la maison de Pierre. Une maison humble. Habité par des humbles, André et Simon, qui n'étaient ni riches, ni importants, ni imposants, ni célèbres, ni savants. Est-ce que vous me suivez ? Donc c'est une maison sans importance. Eh bien, regardez la première chose que va faire la grâce de Dieu. Parce que ce qui caractérise la maison de Pierre et d'André caractérise aussi notre maison et notre famille. Qui sommes-nous devant les grands de ce monde ? Pas grand-chose. Hein ? Nous sommes ni célèbres, ni riches, ni imposants. Et pourtant, nous avons donné notre cœur au Seigneur. Et dans le jour de notre baptême, nous avons dit au fond de nous-mêmes, « Moi et ma maison, vous l'avez dit ?» Bien. Et que fait la grâce de Dieu ? Quand et comment elle entre dans une maison ? Vous allez tout de suite découvrir, parce que ça nous est donné, n'est-ce pas ? La grâce de Dieu est rentrée dans la maison de Simon, pourquoi ? Parce que, oui, Simon et André y ont invité Jésus. Jésus ne s'impose pas. Donc si la grâce de Dieu entre dans la maison, c'est que ces hommes simples l'ont invité. Si la grâce de Dieu est arrivée dans notre cœur, mes frères et sœurs, c'est que nous l'avons invité. Parce que l'évangile, c'est une invitation, venez à moi. Et nous avons dit au Seigneur, Seigneur, dans ta grâce, je te donne ma vie, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Donc c'est la première chose pour que la grâce de Dieu s'étende sur nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines. Elle ne peut aller que si nous déjà, nous avons rencontré la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Ça commence, voyez-vous, par une rencontre. André et Simon, ce sont des hommes qui ont rencontré Jésus. Vous êtes des hommes et des femmes qui avez rencontré Jésus. Est-ce que tous les membres de votre famille ont rencontré Jésus? Est-ce que tous les habitants de votre quartier ont rencontré Jésus? Est-ce que tous les habitants de nos villes et de nos villages ont rencontré Jésus? Mais nous, nous avons rencontré Jésus. La grâce de Dieu, elle vient quand nous la recevons. C'est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, comme Simon et André ont reçu Jésus, Jésus va entrer dans leur maison. Et l'Écriture nous montrera un petit peu plus tard que ils en ont parlé les uns aux autres. D'ailleurs, il est écrit même, c'est André rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et puis il y a eu Jean, et puis il y a eu Jacques, il y a eu ces quatre-là, et le feu s'est propagé parce que André a commencé par dire, nous avons rencontré. Et nous, mes frères et sœurs, nous pouvons dire ce matin, j'ai rencontré Jésus parce que Jésus m'a rencontré avant tout. Bien, ça va commencer la grâce de Dieu. Mais tu seras sauvé, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas n'importe quel prophète stupide qui a dit ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, nous ne pouvons pas dire tous, mes frères et sœurs, que notre famille est sauvée. Mais nous pouvons dire que le plan de Dieu, c'est de sauver notre famille. Nos fils, nos filles, et tous ceux qui nous touchent, nos maris, nos femmes. Et c'est normal de penser à notre famille. Regardez, le vieillard Abraham, il avait tout, il était tranquille. Et quand il a appris que son neveu, un certain monsieur Lot était dans de mauvaises positions. Qu'est-ce qu'il a fait, le tonton Abraham? Il a prié pour son neveu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Dieu a-t-il exaucé la prière pour le neveu? Alors Dieu va-t-il exaucer votre prière pour vos neveux et vos nièces? Ouh. Bien, continuons. Ce qui est formidable, c'est que le vieux monsieur Jacob, il était un peu comme Moïse à roue, il avait des fois besoin d'une canne. Il s'appuie sur le bâton et il adore Dieu. Et en s'appuyant sur son bâton, en adorant Dieu, à la fin de sa vie, que fait-il pour ses 12 fils? Il prie pour eux et il les bénit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous voyons donc que la Bible met l'accent non seulement sur nous, mais sur notre maison, sur notre famille. Et il ne faudrait pas que ce matin, mes frères et sœurs, au culte, vous ayez de la peine parce que vous êtes toute seule ou tout seul. À la maison, on ne vous suit pas et dans la famille, on ne vous comprend pas. Car Dieu a quelque chose à vous dire. La grâce de Dieu vient quand on a reçu Jésus dans notre cœur. La deuxième chose, avant de rentrer dans la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait, André, Simon, Jésus? Qu'ont-ils fait? Ils sont rentrés au marché aux puces. Non. Ils sont rentrés pour jouer au tiercé. Non. Ils sont rentrés dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, c'est un besoin. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons !» Non pas quand on me dit, « Sortons de la maison de Dieu !» Quand nous dit, « Allons, allons !» La grâce de Dieu, mes frères et sœurs, vient quand nous la recevons, ça. Et la grâce de Dieu est capable, dans sa puissance formidable, de nous fortifier. Et ce matin, nous sommes au culte. Qu'est-ce qui se passe au culte du temps du Seigneur Jésus? Vous remarquerez l'importance, il est écrit, Jésus rentra d'abord. Quand on est converti, une des grandes activités que nous avons besoin et que nous aimons, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de venir dans la maison de Dieu. Oui, j'aime ta maison, Seigneur. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de rester devant leur téléviseur en regardant Internet. Est-ce que c'est écrit? Il est écrit de demeurer ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est au culte? On parle politique? Non. On parle morale? Non. On parle psychologie? Non. Philosophie? Non. Il est écrit que dans la synagogue, Jésus enseignait. Et mes frères et sœurs, vous le savez comme moi, on vient à la maison de Dieu pour que Dieu nous enseigne. Parle-moi, toi Seigneur. Et il est écrit que là, Jésus a enseigné. Donc, ils ont entendu l'appel de Jésus, ils voient Jésus enseigner, et ils ont vu de leurs yeux l'autorité de Jésus. Parce qu'il enseignait en parlant avec autorité, pas comme les religieux. Ils ont vu la puissance de Jésus. Un possédé qui a voulu faire du trouble. Parce que le diable veut toujours créer du trouble dans les assemblées. Toujours poser des questions, et il nous amenait des choses étranges. Oui, c'est étrange que dans la synagogue, il y a un type qui se met à crier et à hurler. C'est étrange. Mais il y en a un qui lui a dit « Tais-toi !» Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Donc là, voyez-vous, frères et sœurs, pour que la grâce vienne dans notre maison, il faut que ça soit ancré dans notre cœur. Tout d'abord, recevoir la présence de Jésus. Vous m'avez dit, ça, c'est fait. Venir au culte d'abord, ça, c'est fait. Troisièmement, écouter ce que dit Jésus, son enseignement et son autorité, ça, ça fait. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de trouver le petit verset. Parce que dans ce texte-là, nous avons les trois richesses des fleuves de Dieu qui coulent. Regardez, en sortant de la synagogue, quand ils sont sortis de la synagogue, qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux? Qu'ont-ils emmené avec eux? Qu'est-ce que André et Simon... Ils ont emmené? Oui, et encore? Et encore? Ah! Oui! Ils ont emmené Jésus. Mes sœurs et mes frères, le Seigneur me le mettait à cœur cette nuit de vous dire, et surtout à ceux et à celles qui ont des soucis pour leur famille, pour leurs parents inconvertis et pour ceux qui vous persécutent. Vous venez au culte ce matin, vous venez au culte le samedi, vous venez au culte le mardi, quand vous le pouvez parce que vous aimez la maison de Dieu. Et quand vous repartez, et quand nous repartons, nous devons toujours, toujours, toujours repartir avec Jésus. Parce que, vous allez voir la suite, ils sont partis avec Jésus. Après le culte, en disant, ah le culte, ça nous a fait du bien Seigneur. Qu'importe celui qui a prêché, qu'importe les cantiques, Seigneur, ta présence nous a fait du bien. Mais mes frères et sœurs, entre le moment où on quitte la salle et le moment où on rentre dans notre maison, on parle. Et des fois, on bavarde tellement qu'on perd tout ce qu'on vient d'entendre. Et on discute tellement qu'au lieu de se souvenir des promesses de Dieu, eh bien malheureusement, on garde tout ce qui va pas. Ah, vous savez, il y avait des gens qui manquaient. Ah, il y avait ceci et cela. Alors si vous voulez perdre cette présence de Dieu, commencez à être négatif. Il faut que nous rentrions tout à l'heure chez nous afin que ceux qui s'opposent ou qui ne s'opposent pas réalisent que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés par Jésus. Vous allez voir, jusqu'à... Parce que dans le fond, la synagogue, ils entendent les enseignements, ils voient la victoire, ils voient le diable reculer, puis quand ils rentrent chez eux, tout à l'heure vous allez rentrer chez vous, dans votre appartement ou dans votre palais. Bref, qu'est-ce que vous allez trouver? Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en rentrant, mes frères et sœurs? Ils ont trouvé la maladie. Ils ont trouvé une odeur de fièvre. Ils ont trouvé une ambiance fiévreuse. Une ambiance où on marche à petits pas. Une ambiance de contagion, de virus qui pouvait circuler. Ils ont trouvé la personne la plus importante de la maison, et au lieu d'être en train de travailler, ils ont trouvé la personne au lit. Ils ont trouvé que des mauvaises nouvelles. Mais vous apportez Jésus dans votre maison. Et si vous êtes frappé en trouvant la fièvre de votre adolescent qui, avec ses oreilles remplies de petits bouchons noirs, est en train de valser ailleurs, ou cette adolescente ou adolescent qui s'est piqué, ou vous avez trouvé quelques grammes de drogue, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez trouver tout à l'heure? Mais ce que je sais, c'est que si vous allez avec Jésus, ce Jésus que vous êtes venu bénir et adorer, vous allez permettre à la grâce de Dieu qui est en vous d'entrer dans la maison. Car c'est là le deuxième point que je voudrais vous. Quand la grâce de Dieu se manifeste-t-elle? Quand je reçois le Seigneur dans mon cœur. Deuxième question. Que fait la grâce de Dieu quand elle entre dans ma maison? Parce que Jésus est rentré avec eux. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui fait le fleuve? Quelle a été la première action de ces hommes quand ils sont rentrés? Vous savez, il est écrit que le fleuve d'eau vive, il coule, hiver comme été. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il est écrit que le fleuve, ça c'est dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 9, le fleuve de Dieu, qui sort de la maison de Dieu, partout où il va, il sème la vie. Mais mes frères et sœurs, si le fleuve de Dieu, c'est le Saint-Esprit, si le fleuve de Dieu, c'est Jésus, si le fleuve de Dieu, c'est la grâce, bien, quand vous allez rentrer chez vous, ne vous fiez pas à ce que vous allez voir et entendre, fiez-vous à ce que la parole de Dieu dit. Le fleuve de Dieu, il rapporte la vie partout. Partout. Parce que quelques-uns diraient, oh oui, mes frères, si vous saviez dans quel milieu je vis. Dans quel... Bon, enfin, on va aller plus loin. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle produit dans la maison? Remarquez bien que la maison de Pierre, c'est plus la maison d'un pêcheur, c'est devenu une maison André et Simon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé de Jésus. Ils n'ont pas commencé à prendre le malade en disant « Ah, tu sais, Dieu nous a parlé, tu aurais dû venir. » Commence pas par assommer. Commence pas par parler de Jésus à ces gens-là. Ils commencent à parler à Jésus de ces gens-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La priorité que nous avons, ce n'est pas de bassiner les gens en disant « t'aurais dû, t'aurais dû, t'aurais dû ». On va les moraliser. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Pierre et André en ont parlé à Jésus. De qui ont-ils parlé? Ah, Seigneur, tu sais, c'était bien le culte, on s'est fait du bien, mais là, il y a de la fièvre, Seigneur, et puis ça va pas mieux. Non, ils ont parlé à Jésus du problème. Et si nous commençons à parler à Jésus du problème, cela va permettre au Seigneur d'agir. Car vous remarquerez que Jésus n'est pas rentré dans la maison, tout de suite, hop, il s'est précipité sur la femme malade. Non, non. Il nous a dit que la première action, ce sont les hommes qui l'ont eue. Ils se sont mis à prier Jésus. Parler à Jésus. Ma sœur, mon frère, oui, je sais que c'est un culte d'adoration, mais apprends à parler de Jésus, mais apprends avant à parler à Jésus, de ton mari, ta femme, de ton fils, de ta fille, ton neveu, ta belle-sœur, bref, tout. Dis Seigneur ce matin, je veux être ce fleuve d'eau vive, apprends-moi à te parler d'eux. Parler à Jésus d'eux. Et c'est très important dans la vie de Pierre. Prendre un exemple, acte 3. Pierre et Jean vont au temple, qu'est-ce qu'il y a là? Un malheureux qui leur demande une petite pièce. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire au temple, Pierre et Jean? Qu'est-ce qu'ils viennent faire au temple? Leur première action, c'est une action de prière. Et après avoir, en allant dans cette maison de prière, ils se tournent vers cet homme en lui disant, voilà, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Voyez-vous, la prière avant. Quand Dorcas est morte. Vous savez, cette femme qui faisait tant de bien aux pauvres, quand elle est morte, on en a parlé à Pierre. Eh bien, vous remarquerez que Pierre ne s'est pas précipité tout de suite vers Dorcas. Et après l'avoir vue morte, il est écrit « Pierre pria ». Et après avoir prié, il agit. Mes sœurs et mes frères, la grâce de Dieu va agir dans notre famille si notre premier sujet, c'est les nôtres, il faut en parler avec Jésus, de leur fièvre, de leur opposition. Ne commencez pas, parce que plus vous allez en dire dans les oreilles, plus ils vont s'endurcir. Vous le savez bien, vous l'avez remarqué. Plus plus vous allez dire ça, plus ils vont être durs. Vous croyez pas? Moi, ce qui m'énervait chez ma mère, qui était baptisée déjà 4 ou 5 ans avant que je naisse, ce qui m'ennuyait quand j'étais adolescent, c'est que je l'entendais jusqu'à des 2-3 heures du matin prier pour Moïse. Mais si elle pouvait se taire, si elle pouvait se taire, je mettais mon oreiller et puis elle continuait, je priais pour Moïse. Et puis, au moment où j'étais très très loin, enfin très loin, loin de Dieu dans mon cœur, à ce moment-là, les prières de ma mère ont été exaucées et Dieu m'a coupé le chemin et m'a fait rencontrer sa grâce. Et à ce moment-là, ma mère s'est mise à me parler. J'avais fait l'école du dimanche, je connaissais tous les cantiques, je connaissais les moniteurs, je connaissais les versets bibliques, mais je ne connaissais pas Jésus-Christ. Alors vous avez des enfants, des mairies peut-être, qui connaissent un tas de choses, ils savent que vous venez à la porte dorée, mais il faut que vous sachiez qu'il est nécessaire qu'ils connaissent Jésus-Christ. C'est lui, le fleuve de la grâce. Alors quand la grâce vient, elle vient quand Jésus me remplit. Un, quand la grâce est dans ma maison, elle transforme ma maison avant tout, non pas en maison de discussion, mais en maison de supplication. Seigneur, apprends-moi à prier, s'il te plaît. Et non pas à juger ma famille qui s'oppose, mais Seigneur, apprends-moi à prier. Vous remarquerez que c'est écrit aussitôt. Le diable vient une fois nous dire, mais c'est pas la peine. Écoute, arrête de prier pour ton mari, tu vois bien. Plus tu pries, plus il durcit.
Ouais.
Mais arrête de prier pour tes enfants. Ben, il faut que leur jeunesse se passe. Satan, le serpent, le menteur. Il sait très bien qu'un peuple qui prie, c'est un peuple qui triomphe. Il y a un peuple qui invoque le Seigneur, c'est un peuple qui est exaucé. Car tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Car tout ce que vous priez, selon la volonté de Dieu, Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Et si vous croyez que Dieu vous entend, quelque chose que vous demandez selon sa volonté, vous possédez déjà. Ah Seigneur, merci. Mon mari, il est gagné. Ma femme, elle sera gagnée. Mes enfants, ils seront gagnés. Ton temps n'est pas le mien. Mais je sais une chose. Ta parole le dit et je m'appuie sur elle. La grâce de Dieu transforme notre maison en maison de prière. Et on assiège la grâce, le secours de Dieu. Ça, c'est la première grâce. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la deuxième grâce? Eh bien, quand on prie, la deuxième grâce, c'est d'avoir le bonheur que Jésus s'approche. C'est écrit. Et Jésus ne s'est pas approché de Pierre, ni de... ni d'André, merci. Il s'est approché de la malade. C'est lui, Jésus. C'est sa présence qui s'est déplacée. C'est lui le fleuve de vie. C'est lui qui a la vie en abondance. Et l'Écriture nous dit que le fleuve de vie, il donne la vie partout. Et quand Jésus s'est approché de la belle-mère de Pierre, c'est la grâce de Dieu qui s'est approchée. Et regardez bien ce qui s'est passé, c'est magnifique. La Bible nous dit, dans un autre passage, puisque c'est écrit dans Matthieu, Marc et Luc, hein, dans un endroit, il est écrit « Alors Jésus s'approcha ». Dans un autre texte, il est écrit « Alors Jésus se pencha ». Dans un autre texte, il est écrit « Alors Jésus la toucha ». Il s'approche, il se penche et il touche. Et à ce moment-là, l'Écriture nous dit « La fièvre ». La contagion, l'agitation, les questions, parce que la fièvre, c'est le délire. Eh bien, tout ça est parti. Il est écrit « aussitôt ». La fièvre l'a quitté. Dites-nous, frères et sœurs, avez-vous déjà eu la fièvre?
Oui.
Ben, vous me direz, frère, j'ai tellement de fièvre que je n'ai pas pu répondre à Alléluia. Bon, on va prier pour que vous soyez guéris. Quand on sort d'une... Les gens disent une bonne fièvre, moi je trouve que c'est plutôt une mauvaise fièvre. Quand on sort d'une fièvre qui vous a secoué, parce que la fièvre qu'il devait avoir, ce n'était pas un petit 37,3. Hein. Quand on sort de ça, il faut des heures, il faut des jours, et voire des fois des semaines pour bien récupérer. Pas vrai? Or là, la belle-mère, elle a récupéré immédiatement. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Notre Dieu, c'est un tonnerre. Notre Dieu, c'est plus rapide que l'éclair. Car quand un malheureux crie, L'Éternel l'entend, non pas plus tard, mais maintenant. Regardez, aussitôt, il se penche. Dès que tu vas prier pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, eh bien, aussitôt, quand tu vas prier, pense bien dans ta tête que l'Écriture nous dit, quand je prie pour eux, je sais que tu t'approches d'eux, Jésus. Je sais que tu te penches sur eux, Jésus. Je sais que tu vas les toucher, Jésus. Dites ça dans votre cœur, en priant. C'est ça, la foi. Je sais que tu vas le faire, Seigneur, puisque tu l'as écrit dans ta parole. Quand ils ont prié, et tu t'es approché. Vous rendez compte, il va s'approcher de votre fils? Il va s'approcher de votre cousin qui vous a insulté? Il va s'approcher de votre voisin ou votre voisine qui vous persécute? Oui, il va le faire! Parce que partout où le fleuve va, il apporte la vie. Et ce matin, mes frères et sœurs, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous, la maison de Marthe et de Marie, il y avait une drôle d'odeur. Hop, comme mon papier là. Il y avait une drôle d'odeur, Jean 11, une odeur de mort. Il sent déjà. Tellement qu'il sentait, il fallait le mettre dehors. Eh bien, quand Jésus vient, quand le fleuve de vie vient dans la maison de Béthanie, qu'est-ce qu'il dit? Ton frère ressuscitera. Oh. Plus tard, je suis, non pas je serai, où j'étais, je suis. Et celui que nous bénissons ce matin, il n'est pas celui d'hier ni de demain, il est le Jésus d'aujourd'hui. Au milieu de nous, mes frères et sœurs. Ayant les yeux fixés sur chacune de nos vies. Regardez. La maison de Marthe et de Marie a connu la résurrection et après, comment ça s'est terminé dans Jean 12? La maison de Marthe, de Marie et de Lazare était remplie de parfum, non pas de gémissement, non pas qu'est-ce que je vais devenir, non pas je m'inquiète, mais le parfum de la reconnaissance et de la louange. Voilà ce qu'il fait, le fleuve de Dieu. Quand va-t-il agir, ce fleuve de Dieu? Tout d'abord, quand je le reçois dans mon cœur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait, le fleuve de Dieu? Il transforme ma maison de prière, décidément. J'en ai pas besoin. Il transforme ma vie en prière. Il transporte mon cœur en espérance, et il répand la bonne odeur de vie. Frères et sœurs, il y a un homme. On fait un petit jeu? On peut faire un petit jeu? Il y a un homme qui a gardé, attendez, voilà, 3 mois, je crois. 3 mois chez lui. Non, pas son chien, non. Non, pas son chat. Le lapin. Non, pas le lapin. Vous savez ce qu'il a gardé? Il a gardé, son nom c'est Oben Edon. L'arche. Et pendant qu'il les a gardés pendant ces 3 mois-là, il écrit « Et Dieu bénit la maison d'Obed-Edom ». Le Dieu d'Obed, c'est le même Dieu qui est à Paris. Il n'a pas changé. Il faut que Satan le sache. Dieu, mon Dieu, j'ai envie de chanter mon Dieu plus près de toi. Oui, c'est un fleuve. Je vais y boire parce que ce fleuve, il vient quand je reçois Jésus et il transforme ma maison en maison de prière, en maison de miracles, en maison de joie, plus d'anxiété. Je sais en qui j'ai cru. Et troisièmement, la grâce de Dieu. Maison de prière. Maison où Jésus agit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Simon? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais juste avant, qu'est-ce qu'elle a fait, la belle-mère? Elle a servi. Ma maison devient une maison de service. Ma maison devient Bethel, maison de Dieu. Mais avant, c'était une petite maison, je vous le disais tout à l'heure. Hein. C'était une maison humble, maison de pêcheurs. Il n'y avait pas des scribes, il n'y avait pas des grands savants, il n'y avait pas des gens très importants. Mais quand Jésus vient, quand il enrichit notre vie, ah, quand il vient, j'entends mon frère Claude Gentil chanter « Quand Jésus vient ». Eh, mes frères et sœurs, moi je ne me fatigue pas de l'écouter quand il nous fait son. Parce que c'est là le bonheur. Quand Jésus vient, l'ennemi... Voilà ce qu'elle fait, la grâce de Dieu. Elle transforme ma maison. Et cela m'amène, je termine, mes frères et sœurs, par une chose. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait de ma maison? Ça, c'est la troisième chose. Bien, je vais vous le dire, c'est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous l'avez, c'est écrit au verset 32. Toute la ville. Toute la ville. Ouais, je sais qu'il y a un théologien qui, enfin, un collègue qui était un peu plus théologien, moi j'y suis pas. Il disait, mais enfin, tu sais, Moïse, faut pas exagérer. Toute la vie. Mais non. Mais moi, je crois que si c'est écrit toute la vie, c'est parce que c'était toute la ville. Et toute la ville était devant la maison de Simon. Petite maison qui n'avait rien, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ça vous fait pas penser à une personne, ça? Oh, pardon. Qui n'avait ni beauté, ni éclat? N'est-ce pas la personne de Jésus? Et regardez, cette petite maison qui valait rien, qui était humble, devient un centre d'intérêt pour tout Capernaum. Et cela me montre la troisième chose que fait la grâce de Dieu dans ma vie. Elle me sauve. Elle m'utilise. Et béni soit Dieu. Elle répand autour un fleuve important parce que il est écrit dans Ézéchiel 47, 9, partout où le fleuve passe. Il est large, on peut pas le traverser, il est profond, on peut pas descendre, mais partout, il y a la vie. Et sur les bords, il y a des arbres, et des arbres qui donnent des fruits tout le temps. C'est ça la grâce de Dieu. Elle est inépuisable. La dernière chose, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, regardez ce qu'elle va faire de la maison, je viens de vous le dire, sans faire de bruit. Est-ce que vous avez vu Simon et André, dire, bon, écoutez, les gars, hein, on va imprimer des affiches, hein, puis on va coller ça. Hein. Jésus sauve, Jésus guérit, hein, on va faire de la pub, on va aller voir les écrans de télévision, allez, on va prendre de l'argent, donnez-nous de l'argent, on va faire de la pub, de la pub, de la pub. Est-ce qu'ils ont fait ça? Mes frères et sœurs, ce qu'ils ont fait, c'est vivre leur foi. Et si tu vis ta foi, le monde le verra. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et toute lumière qui brille est capable d'apporter. Et Jésus, c'était un visage qui n'avait ni beauté ni éclat, mais il était la lumière du monde. Et tous ceux qui s'approchaient étaient libérés. Je me souviens d'une petite expérience que j'ai faite dans une petite ville du département de l'Eure. On était rassemblés dans une cave. On n'avait même pas de sous pour acheter du parquet. On avait des lames de chantier, du sable, un vieux poêle à charbon. Frère Barma, il sait ce que c'est. C'est des bulles, hein. Il fallait que nous, les stagiaires, on soit là une heure et demie avant pour allumer le feu. Et si on l'allumait mal, il y avait plein de fumée partout. Et alors, je vois arriver un couple tordu, blessé, et hésitant, qui vient pour la première fois. Il dit, oui, on a entendu qu'il y avait des guérisseurs par ici. Alors, en face de nous, il y avait un guérisseur. Ah, je lui dis, attendez, il y a des guérisseurs, mais il y a le guérisseur. Qu'est-ce que vous préférez? Ah, ben, le guérisseur. Alors, rentrez. Mes frères et sœurs, chez vous encore, tous les deux, ils ont été instantanément guéris. Je dis bien instantanément guéris. Il n'y avait pas de bruit. On était 8 dans la salle. Hein. Simplement posé la main. Et en regagnant leur place, ils disent, ah! Il a retrouvé son dos et elle ses jambes. Ils sont rentrés chez eux, c'était à Nonancourt. Et puis, ils m'ont dit, vous savez, pasteur, le guérisseur, ça doit être Jésus, parce que quand vous avez prié Jésus, on a été guéri. Il dit, oui, bien sûr. La semaine suivante, c'était un samedi, je reçois un coup de téléphone. Alors, où quand est-ce que vous venez à Nonancourt? C'est pas mon coin, ça. Si. Ma femme et moi, on a loué une petite salle. Quoi? Petite salle? Oui, la salle du bistrot de Nonancourt. Ah bon? Oui, on a payé, puis on a dit que vous allez venir et que les jambes vont être guéries. J'ai dit, Seigneur, mes frères et sœurs, j'ai eu les genoux qui se témoignaient de l'affection. J'ai senti le peu de cheveux se dresser à la Laurel et Hardy. J'ai dit, ma femme, qu'est-ce que c'est que ça? Et comme j'avais un jeune frère qui commençait le ministère, j'ai dit, tu vas venir avec moi? Quand on est arrivé, la petite salle était pleine. 60 à 70 personnes qui étaient là parce qu'ils avaient vu. Il n'y a rien d'autre, ils avaient vu. Et depuis, on y a fondé une église. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est le Dieu d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il a encore, plus le temps presse, plus il a un désir ardent de sauver les âmes. Alors, croyez que quand la grâce de Dieu est dans la maison, elle transforme l'hôpital. La maison devient L'hôpital, une infirmerie, non ? Mieux, et devient une église. Et une église, c'est quoi ? C'est la maison de Dieu. Et je vous le disais tout à l'heure, la maison, c'est Bethel. Ma sœur, mon frère, le diable est en train de te dire, oui, il dit ça. Oui, mais si tu étais dans mon quartier, pasteur. Ah bon ? Ah ben, peut-être, je ne suis pas dans ton quartier. Oh, vous saviez quel quartier ? Oh, si vous saviez dans quel arrondissement ? Oh, si vous saviez quel lieu de la banlieue je vis ? Oh, si vous saviez ! Ah, si vous connaissiez mon mari, il est affreux, il est épouvantable. Ah, si vous connaissiez ma femme. Nous, les pasteurs, on entend des fois ça au téléphone. Hein? Si vous connaissiez. Ah, puis si vous saviez. Et si vous... Bref, j'arrête. Mais mes frères et sœurs, le fleuve de Dieu, il apporte la vie partout. Merci. Un militaire romain s'appelait Corneille. Il a réuni sa maison. Et la grâce de Dieu a touché la maison de Corneille. Et ils ont été baptisés de l'Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, vous direz, oui, mon frère, c'est un peu exceptionnel. Bon. Allez à Philippe, visitez la prison de Philippe, regardez le directeur de la prison qui est paniqué et qui a envie de se suicider. Et qu'est-ce que lui dit Paul, je le disais tout à l'heure, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi! Allez-y. Est-ce que c'est vrai pour vous, mes frères, c'est ça? Alors on dit Amen. Oui, vous me direz, mais là, vous prenez comme du jeu. Mais plus tard, il y avait un type haineux, coléreux, méchant, criminel, un intégriste, un révolutionnaire intégriste, et avec sa religion qui valait. Il tuait, il mettait en prison hommes et femmes. Et il y a un pauvre gars qui s'appelait Étienne, qui a été victime, plus ou moins, d'une certaine façon. Et Étienne a été traîné, a été condamné. Mais regardez, il est écrit, et Saul de Tars, car c'était lui Saul de Tars, approuva le mort des traîtres, en disant, c'est ok, c'est bien. Vous savez ce qu'il a fait, Étienne ? Mais Étienne, se tenant devant Dieu, dit, pardonne-leur. Mes frères et sœurs, et qu'est-ce qu'il est devenu, Saul de Tars ? Un bagnard, un rejeté, il est devenu Saint Paul. Ça veut dire que, arrête de dire, si tu connaissais mon foyer, si tu connaissais ma famille, si tu connaissais mon quartier, partout où le fleuve de Dieu passe, il apporte la vie. Tu m'as dit tout à l'heure que ce fleuve, il était en toi puisque tu as reçu Jésus. Et tu m'as dit tout à l'heure que ce fleuve, il est dans ta maison puisque tu pries. Et moi, je suis obligé de te dire que si ce fleuve est dans ta maison, eh bien, tu ne peux pas le garder pour toi. Ça ne peut pas devenir un étang. Ça doit couler et couler et couler encore. Et partout, ça va couler. Des âmes ont été sauvés, libérés et pardonnés. Mes frères et sœurs, je voudrais simplement vous dire, si vous voulez, chez vous, lisez Apocalypse, chapitre 10, 22, verset 17. C'est pour nous ce matin. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. L'Apocalypse se termine encore par une invitation. Alors nous résumons. Que fait la grâce de Dieu, mes frères et sœurs? La grâce de Dieu, c'est un fleuve qui sort de la maison de Dieu, qui sort de la personne de Jésus. Et comme on le chante souvent, de la croix, elle sort de la croix. Et l'Apocalypse nous dit que le fleuve, il sort du trône de Dieu. Et partout, il donne la vie. Maintenant, on va courber nos fronts un instant. On va fermer nos yeux. On va penser à nos maisons. On va penser aux rebelles, on va penser à tous ceux qui s'opposent, à ceux qui nous font mal, à ceux qui nous insultent, à ceux qui nous critiquent, à ceux qui nous font des douleurs dans la famille. Et on va parler à Jésus. Vous voulez bien tenter l'expérience? Mon Père qui est dans le ciel, la grâce que je te demande ce matin, c'est que tu accomplisses ce que nous venons de lire dans ta parole. La grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu est suffisante. Merci Seigneur. Et avec mes frères et sœurs, te demandons ce matin que, en quittant l'église, nous n'oublions pas ce que nous avons chanté. Nous n'oublions pas la sainte scène que nous avons prise. Nous n'oublions pas la parole que nous avons reçue. Et que nous rentrions dans notre maison en y amenant la présence de Jésus. Que nos maisons deviennent des maisons de prière. Des maisons de prière. Des maisons de victoire, des maisons où l'on bénit Dieu, des maisons où on change l'odeur de mort en odeur de vie. Et Seigneur, sers-toi de nous, s'il te plaît, pour notre quartier, pour notre ville, mais aussi pour notre foyer. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute la ville était là. Et tu l'as pas changé. Si tu nous as écrit cela dans ta parole, c'est parce que tu veux que ça se réalise. C'est un rêve fou, mais c'est un rêve possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Il est un fleuve. Comment est-il ? Comment ? Alors, ce que je vais faire maintenant, alléluia ! Et qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Et alors ?
Et ta victoire m'anime de l'esprit.